Bonjour à tous, bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter au sommaire de l'émission jusqu'à 14h comme tous les dimanches. Retour sur la semaine avec Natacha Polony et Raphaël Glucksmann. Et puis l'invité du grand face-à-face, c'est la présidente du Conseil des sages de la laïcité de l'éducation nationale, Dominique Schnapper. Mercredi dernier commençait la distribution d'un nouveau guide de la laïcité dans tous les établissements scolaires de France. Des conseils pour les enseignants, le rappel des sanctions pour ceux et celles qui ne respecteraient pas les règles. Mais comment convaincre les élèves qui ne veulent pas taire leurs convictions religieuses? Comment interdire par exemple à des mères voilées d'accompagner les sorties scolaires si elles sont les seules à se porter volontaires? Des questions et le débat avec Dominique Schnapper dès 13h30.
France Inter, questions politiques, Ali Badou.
Et on commence avec le face-à-face Natacha Polony, Raphaël Glucksmann. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. On va démarrer avec la vie politique, non pas française, mais la vie politique italienne qui continue de secouer l'Europe et ce nouvel épisode dans ce feuilleton incroyable qui se déroule de l'autre côté des Alpes. Finalement, pas de gouvernement de technocrates. La Ligue et le mouvement 5 étoiles sont parvenus à un accord. Giuseppe Conte, nommé président du Conseil. Écoutez-le, c'était jeudi soir au cours d'une conférence de presse.
Nous travaillerons intensément pour réaliser les objectifs politiques qui sont inscrits dans notre programme de gouvernement. Nous travaillerons avec détermination pour améliorer la qualité de vie de tous les Italiens.
Et donc la naissance du premier gouvernement ouvertement anti-système d'Europe. Natacha, vous saluez cette décision finalement de conduire Giuseppe Conte, de le reconduire à la présidence du Conseil italien?
Je pense que la question n'est pas de saluer ou pas, mais de constater que c'est le résultat d'un psychodrame absolument ahurissant, où on a vu sans doute Sergio Mattarella, le président italien, être totalement contre-productif par rapport à ce qui était son objectif. C'est-à-dire que le fait d'apparaître comme celui qui faisait obstacle à la démocratie était tellement criant que il a fallu, à un moment donné, reculer. De même, d'ailleurs, que la déclaration
du obstacle à la démocratie, on vous rétorquera qu'il ne faisait qu'appliquer l'article 92 de la Constitution italienne et que nommer le Premier ministre et les membres du gouvernement, c'est sa prérogative.
C'est vrai, c'est sa prérogative, mais vous savez très bien que dans l'application d'une Constitution, il y a l'esprit et la lettre, il y a la question de la légalité et son croisement avec la légitimité, et que, en l'occurrence, il semblait évident que Mattarella voulait mettre en place une politique qui était le contraire de celle qui était sortie des urnes. Mais alors peut-être parce qu'il est convaincu que ce serait meilleur pour l'Italie. Et s'il en est convaincu, on comprend parfaitement qu'il le fasse. Mais ça pose un problème. Mais j'ajoute qu'il y a eu cela et il y a eu la déclaration du commissaire européen allemand qui a expliqué, alors évidemment bon, la citation a été un peu tronquée ou en tout cas écourtée, résumée brutalement par la chaîne de télévision sur laquelle il intervenait. En gros, les marchés vont apprendre aux citoyens italiens à voter correctement. Bon, il l'a dit plus poliment que ça, mais c'était ça que ça signifiait.
Mais est-ce qu'il n'énonçait pas une vérité, Raphaël Glucksmann,
oui,
en l'occurrence, puisqu'il y avait conflit entre le verdict des urnes d'une part et de l'autre l'épargne, le portefeuille des Italiens avec les bourses qui dévissaient, avec le coût de la dette qui augmentait?
Très bien, mais on ne luttera pas contre les populistes ou les nationalistes xénophobes type la Ligue du Nord en s'asseyant sur la démocratie. Il y a là un problème qui est un problème fondamental. C'est-à-dire qu'on présente l'Europe comme étant un contrepoids aux volontés populaires et même avec un contrepoids qui tendrait à l'annuler, cette volonté populaire. Donc ce n'est pas du tout la manière de faire, ce n'est pas du tout la solution. Et de toute façon, s'il y avait eu des élections reconduites, des nouvelles élections, tout porte à croire que la Ligue du Nord, enfin la Ligue maintenant, aurait fait un score bien supérieur. Ils ont déjà pris 12 points dans les sondages pendant cet épisode. Donc il y a un problème qui est un problème de fond et la réponse des Allemands là-dessus était catastrophique. La question maintenant qui reste, c'est que cette coalition, c'est une catastrophe sur le fond. J'ai regardé le programme porté par cette coalition et notamment les 500 000 expulsions en 6 mois de clandestins. Alors, je faudra voir comment ils organisent ça. J'espère qu'ils reviendront sur cette décision complètement folle et beaucoup d'autres choses. Donc, il y a deux problèmes ici. Un, des élites qui sont complètement désemparés et qui sont prêts à s'asseoir sur la démocratie pour empêcher ces gens d'arriver au pouvoir. Deuxièmement, maintenant, il y a un gouvernement et le programme de ce gouvernement, a priori, est cataclysmique.
Ce qui est apparu d'abord, c'est que Sergio Mattarella, dans la première liste qui lui était proposée, finalement, pouvait agréer un ministre fasciste et profondément corrompu, mais pas un eurosceptique, ce qui était tout de même assez frappant.
Ils étaient tous eurosceptiques.
C'est Savona qui était le plus eurosceptique et c'est lui qui a été refusé parce qu'il théorisait une sortie de l'euro.
Paolo Savona, qui figure toujours dans le gouvernement,
oui, mais aux affaires
européennes. Ce qui était prévu, oui.
Pas à l'économie. Et c'est là l'enjeu. Et simplement, ce qui, moi, m'inquiète, c'est de voir que là, ce gouvernement nouvelle formule, donc, a abandonné visiblement son programme de remise en cause des structures économiques telles que, pourtant, elles sont en train de désindustrialiser l'Italie comme ça a été fait en France ou ailleurs. Et à côté de ça, va accentuer pour compenser sur son programme sur l'immigration. C'est là-dessus que ça va se reporter. Et c'est finalement assez frappant de voir qu'en face, on a des commentateurs qui disent, qui s'obsèdent sur l'immigration en expliquant que c'est le sujet principal qui a amené à ce vote. Or, il y avait un article très intéressant dans Le Monde en début de semaine. Le journaliste était allé interroger les petits patrons qui votent pour la Ligue du Nord. Et ce qui ressortait de son enquête, c'est que l'argument principal, c'était la question du libre-échange. C'était des gens qui, dans la plaine du Pô, ont des rizières et qui ont été éradiqués par le libre-échange et l'entrée massive de riz à bas coût, produit évidemment avec des pesticides en Asie. Et ils expliquaient que ça provoquait une désertification des campagnes, une désertification des centres-villes, qu'il y avait une impression d'être écrasé par des normes quand d'autres n'avaient pas les mêmes problèmes. Et donc, la Ligue a fait campagne sur le Made in Italy. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, ils vont l'abandonner, ça, puisqu'en effet, sous la pression du marché, ils risquent fort de laisser tomber cette partie-là. Mais en revanche, d'essayer d'appliquer l'expulsion de 600 000 migrants. Mais le cœur du problème, c'est le libre-échange.
Vous voyez, oui, le cœur du problème, c'est la dérégulation totale.
Mais oui.
Le cœur du problème, c'est l'absence de souveraineté européenne. Le cœur du problème, c'est, vous parlez du riz produit en Chine, mais le cœur du problème, c'est le fait qu'on n'ait pas de douane à l'échelle européenne qui soit capable d'indiquer ce flot-là.
Et
donc, ils vont utiliser cette frustration-là, cette frustration qui est légitime, pour la détourner contre l'idée européenne elle-même. C'est ça les discours de Salvini. C'est ça le danger ultime de ces mouvements populistes en Europe aujourd'hui. C'est qu'en réalité, ils répondent à des inquiétudes extrêmement légitimes sur la globalisation et la mondialisation. Et ils vont détourner la colère des gens, un, sur les migrants, et deux, sur l'idée de Bruxelles. Or, on est en réaction contre Bruxelles. Or, ce qu'il faudrait, au contraire, si on veut justement réguler cette mondialisation, c'est que Bruxelles devienne souveraine sur ces questions-là de douane,
par exemple. C'est là où nous en revenons à notre différend permanent. Que Bruxelles devienne souveraine, mais les gens qui aujourd'hui sont le cœur de cette machine bruxelloise sont totalement acquis à l'idée du libre-échange. Souvenez-vous que même Emmanuel Macron, pendant la campagne présidentielle, avait dit qu'il fallait un petit peu de protectionnisme et il avait utilisé quoi comme argument ? C'est assez délicieux. L'acier. L'acier qui aujourd'hui est en train d'être la proie d'une guerre commerciale et où Emmanuel Macron vante le libre-échange. Pendant la campagne présidentielle, il avait expliqué, mais regardez, il y a quand même des droits de douane pour l'acier aux États-Unis alors que l'Europe est ouverte à tous les vents. C'est-à-dire que structurellement, l'Union européenne telle qu'elle est conçue aujourd'hui... Je termine ma phrase. Structurellement, l'Union européenne telle qu'elle est construite est totalement fondée sur le libre-échange. Donc, pour ma part, je pense qu'il faut reconstruire une union entre nations européennes qui repartent sur de bonnes bases, sur une souveraineté européenne véritable, que vous appelez de vos voeux.
Sur une souveraineté européenne véritable, donc c'est pas entre des nations européennes simplement, ça suppose un échelon s'appelle l'Europe et qui soit capable de décider de manière souveraine d'avoir une union et une douane.
Une confédération d'États-nations me semble une bonne structure.
Et le fait est qu'il faut établir un rapport de force à l'échelle européenne. Et le problème qu'on a, c'est que soit vous avez des gens qui effectivement sont complètement acquis au libre-échange, soit vous avez des gens qui exploitent la colère des citoyens et des citoyennes pour rejeter l'idée même de l'Europe. On ne s'en sortira dans cette globalisation que si on fait cette souveraineté européenne. Et donc, pour la faire, il faut bien établir un rapport de force au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire que si c'est la Ligue du Nord ou les libéraux allemands, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner le débat, là. Et donc, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, effectivement, cette colère sociale, elle est légitime. Mais elle débouche sur quoi, là?
Le libre-échange est inscrit dans les traités, hein, je suis désolé de vous le dire. Il est inscrit dans les traités
mais
européens.
Mais l'impossibilité de faire une douane à l'échelle européenne est...
Mais vous refusez de parler de l'épargne, pour le coup, des Italiens, puisque c'était la grande inquiétude portée par le président de la République italienne et d'autres en Italie qui voyaient des risques colossaux.
Non, nous sommes d'accord,
Olivier. On peut revenir sur l'idée des traités, parce que c'est faux. En fait, le libre-échange mondialisé n'est pas inscrit dans les traités européens. On peut tout à fait faire un système de souveraineté européenne qui impose des droits de douane pour des produits écologiquement qui ne correspondent pas aux normes ou socialement.
Je réponds juste à Ali sur la question, en effet, de l'épargne des Italiens. On va peut-être dire les choses clairement. L'Italie ne remboursera pas sa dette. Il y a un moment où il faut être légèrement lucide. L'Allemagne a fait défaut sur sa dette dans les années 90. Ça n'a dérangé personne et l'Allemagne se porte bien. Donc, si on part du principe que l'Italie ne remboursera pas cette dette, en tout cas pas de façon immédiate, simple, il faut que ces dettes soient petit à petit allongées pour la France comme pour l'Italie, pour tous les pays européens qui souffrent de cette dette structurelle absolument écrasante. Mais ça nécessite de se mettre d'accord avec l'Allemagne. Et l'Allemagne n'en veut pas parce que l'Allemagne est bénéficiaire de la structure même de l'euro qui est sous-évaluée pour l'économie allemande et surévaluée pour l'économie française et l'économie italienne. Donc tant que nous n'aborderons pas cette question-là, nous nous retrouverons avec des populistes qui proposeront des solutions telles que celles de la Ligue du Nord.
Et au-delà de ça, il y a un problème qui n'est pas que celui de l'Union européenne, il y a un problème à l'intérieur de chacune de nos démocraties qui est l'absence total de consensus désormais autour des institutions qui dominent la démocratie libérale. Et ça, on n'en sortira pas par des tours de passe-passe institutionnels, on n'en sortira que par un New Deal.
On va en revenir en France. Le duel continue sur France Inter.
France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann. Le duel.
C'était cette semaine, mercredi, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi agriculture et alimentation en première lecture. Texte qui enterre plusieurs promesses d'Emmanuel Macron, notamment sur le glyphosate, et le président de la République qui s'exprimait sur le sujet, c'était jeudi.
Si la France n'était pas là, l'Europe aurait décidé 10 ans sur le glyphosate. Donc si la France n'avait pas été là, s'il n'y avait pas une mobilisation du ministre d'État Nicolas Hulot, on aurait eu 10 ans au niveau européen. Nous avons obtenu 5 ans. Et nous avons dit, dès novembre dernier, 5 ans c'est déjà trop, on doit essayer en 3 ans de le faire. J'ai pris cet engagement. Simplement, la bonne façon de le faire, ça n'est pas de le mettre dans la loi une interdiction pour tout le monde, parce qu'on sait qu'il y a 10-15% des situations où ça n'est pas possible. Et donc, ce qu'on va faire, c'est responsabiliser tous les acteurs. Nicolas Hulot, il a ma confiance, et nous avons besoin de son engagement. Parce que c'est un convaincu. Mais après, il a l'insatisfaction des convaincus et des militants. Et c'est normal.
Emmanuel Macron aura-t-il réussi à convaincre? À vous d'en juger. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ce projet de loi enterre plusieurs promesses du président de la République, Natacha, avant de rentrer dans le fond et la philosophie, l'esprit de ce texte.
Oui, c'est-à-dire que s'il n'y avait que la question du glyphosate, on pourrait éventuellement comprendre l'argument d'Emmanuel Macron, même s'il est biaisé. Mais simplement, il n'y a pas que cela. Et au bout d'un moment, ça fait système. C'est-à-dire qu'on constate, comme à chaque fois, qu'une fois qu'on arrive dans le dur, dans le concret, eh bien, les intérêts financiers sont plus puissants que la défense de certains idéaux pourtant affichés dans la communication présidentielle. Donc c'est vrai pour le glyphosate, c'est vrai pour les publicités alimentaires, mais là, la pression vient des chaînes de télévision, de tous ceux qui ne peuvent pas se passer de cette manne publicitaire.
Les publicités télé pour des aliments qui favorisent l'obésité, notamment ciblant les enfants.
Mais bien sûr, vous avez aussi la question de la vidéosurveillance dans les abattoirs, vous avez la question des poules en cage, vous avez la question des contenant en plastique dans les cantines. C'est-à-dire qu'on peut lister. Et encore, il y a eu pire que tout cela, selon moi, mais vraiment pire. Et là, il y a la signature de Nicolas Hulot au bas du document. Ce n'est pas dans la loi agriculture-alimentation. C'est l'autorisation pour Total d'importer 300 000 tonnes d'huile de palme pour le foutre dans de l'agrocarburant.
On pourrait aussi parler de la Guyane et des mines d'or. On est dans un moment qui est un moment de vérité, à mon avis, sur Emmanuel Macron. Alors, il a pu faire illusion sur l'écologie en prenant Nicolas Hulot et en décidant de ne pas faire Notre-Dame-des-Landes. Mais la vérité, c'est qu'en fait, son libéralisme entre en contradiction avec une vision écologique du monde. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il ne cherche même plus, en fait, à part la présence de Hulot, à verdir un peu son projet libéral. Et là, il y a, à mon avis, quelque chose qui relève du vieux monde, puisqu'il se présentait comme le nouveau monde. Moi, je pense sincèrement que le nouveau monde est profondément écologiste, que le nouveau monde est fondé sur la conscience que ce modèle de développement aboutit à une aporie, à une impasse qui peut se traduire via le réchauffement climatique par la disparition du monde tel qu'on le connaît quand même, c'est pas une impasse légère, et que donc ça implique une remise en cause des modes d'organisation de notre société, de production et de consommation. Or, fondamentalement, il est sur un logiciel qui précède, qui date d'avant cette prise de conscience.
Mais il y a eu des victoires, malgré tout. Certains saluent, par exemple, l'extension de l'interdiction des néonicotinoïdes, ces insecticides tueurs d'abeilles, malgré les réserves initiales de l'exécutif.
D'autres saluent
la mise en place d'un référent bien-être animal dans les abattoirs.
Il y a un point très important qui est le découplage du conseil et de la vente de pesticides aux paysans. C'est une avancée indéniable. Il y a la question du juste prix proposé aux producteurs, même si en fait, concrètement, ce sera très difficile à mettre en place. Donc on peut reconnaître qu'il y a des tentatives. Le problème est double. Le problème est la puissance des lobbies qui se manifestent systématiquement quand une loi passe à l'Assemblée nationale, et le processus est tel qu'on se retrouve avec 15 amendements qui ont la même faute d'orthographe au même endroit parce qu'ils sont fournis clé en main à des élus. Et puis, il y a le fait que les volontés affichées, non seulement entrent en contradiction, Raphaël le disait très bien, avec une vision écologique qui pourtant, et je suis bien d'accord, relève de l'avenir et est profondément beaucoup plus moderne que ne l'est l'industrialisme actuel. Mais le deuxième point, c'est aussi que tout cela entre en contradiction avec le libéralisme, ou plutôt avec le néolibéralisme porté par Emmanuel Macron, c'est-à-dire, on en revient à cette question du libre-échange, vous ne pouvez pas faire une agriculture de qualité qui préserve l'environnement et les sols dans un cadre de libre-échange où vous mettez en concurrence les paysans avec des gens qui n'ont pas les mêmes normes.
Effectivement, ça heurte et ça entre en contradiction avec la vision néolibérale, mais en plus, il y a une vision profondément conservatrice des choses qui se dégage en fait de la vision d'Emmanuel Macron, ce qui est étrange parce que c'est un corps jeune, mais par exemple, déléguer la ruralité aux chasseurs, comme il le fait depuis le début de son mandat, et déléguer les questions en gros écologiques ou d'alimentation à la FNSEA, ce qui se passe aussi depuis le début de son mandat, c'est une vision archaïque de la ruralité. C'est une vision ultra passéiste des années 70-80 du développement, et l'imbroglio sur la loi Littoral illustre ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a cette tentation, comme ça, de revenir à une période de la croissance des années 70, en gros, quitte à bétonner le paysage et à compromettre le développement à long terme de ces régions, par ailleurs. Parce qu'on sait très bien qu'économiquement, ça peut faire un boom sur le moment, mais si vous avez des régions qui ressemblent à des stations de ski des années 70, c'est sûr que les gens ne vont plus venir en vacances se baigner devant des buildings en béton.
Mais la FNSEA saluait malgré tout des avancées, saluait également qu'on n'adopte pas à l'Assemblée des amendements qui auraient rajouté des contraintes sur les grandes exploitations agricoles. Est-ce que vous entendez aussi le discours de ceux qui défendent ces grandes structures de production agricole en France ?
Il ne s'agit pas de prétendre qu'il ne faut plus de grandes structures. Elles sont en partie nécessaires. Mais on peut faire des grandes structures vertueuses. Il y a, par exemple, un producteur de carottes en Normandie qui fournit quasiment une chaîne d'hypermarché en carottes bio, et il le fait à une échelle immense et en créant beaucoup plus d'emplois, parce que ça crée de l'emploi. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut que des tout petits paysans avec 3 vaches, c'est pas ça la question. La question est de savoir comment on utilise les connaissances qui existent aujourd'hui sur l'agronomie, sur la lutte par la permaculture contre l'érosion des sols, comment on utilise tout ça pour faire une agriculture qui n'ait plus besoin d'intrants qui coûtent cher et qui ruinent les paysans. Parce que les paysans qui sont pieds et poings liés auprès de la FNSEA, on les a ruinés.
Voilà, mais Raphaël Glucksmann. C'est ça la vérité qui est folle, en fait. Ça fait 40, 50 ans que, de droite ou de gauche, les gouvernements ont considéré que la question agricole, eh bien, ils pouvaient la co-gérer ou la déléguer, même de manière totale, à la FNSEA.
Qui tient les chambres d'agriculture.
Bien sûr, et qui tient aussi la répartition des terres, et qui tient l'agriculture. Et donc, ils ont délégué cela. Et le nouveau monde, ça aurait été justement de casser ce duopole sur
l'agriculture. Je croyais qu'Emmanuel Macron était contre les corporatismes et les monopoles.
Non, mais pas tous les corps intermédiaires. Voilà. Il y en a quelques-uns qui sont encore bons, y compris les lobbyistes de Monsanto.